discussion du soir. Les discussions du soir, René Friedman.
Luc Ferry, merci de revenir en deuxième épreuve puisque nous avons abordé ce fabuleux sujet du transhumanisme et qu'il fallait qu'on se voie et peut-être même il faudrait encore qu'on se revoie. Alors, il y a un livre que j'ai retrouvé, que vous connaissez, qui est celui de Bacon sur la Nouvelle Atlantide. Et la fin, ces derniers préceptes sont assez incroyables puisqu'il parle, et nous sommes en 1623, il parle de prolonger la vie, de rendre à quelques degrés la jeunesse, de retarder le vieillissement, d'augmenter la force et l'activité, de transformer la stature, d'augmenter et d'élever le cérébral, de fabriquer de nouvelles espèces et de plus grands plaisirs pour les sens. Donc on est dans ce qui pourrait être l'orée, le début de l'idée transhumaniste, c'est-à-dire de l'amélioration sans fin à une période, encore une fois, on est à 1623. Et on voit après, il y a donc différentes étapes qui marquent des points forts. On l'a évoqué précédemment la semaine dernière sur le golem. Faust, on est passé rapidement parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Pygmalion, Lilith, Prométhée. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur Frankenstein, qui reste quand même, il y a d'abord, c'est un anniversaire, ça fait 200 ans que Mary Shelley a écrit ce livre qui l'a fait connaître, même s'il y a eu des prémices de ce personnage, de cette créature qui n'a pas de nom si ce n'est celui de son créateur.
C'est un mythe tout à fait passionnant. D'abord, il remonte à la mythologie d'Asclépios. Asclépios, le père de la médecine, Esculape des Latins. Mais on trouve déjà dans le 15e siècle, dans la théologie du 15e siècle en Allemagne...
Pourquoi ? C'est parce que c'est le fait d'être ressuscité ?
Oui, Asclépios, c'est celui qui ressuscite les morts. Il ressuscite les morts. Les Grecs avaient souvent, on trouve ça aussi dans la mythologie d'Hermès, souvent cette idée que... Parce qu'on trouvait dans la campagne grecque, on trouvait des peaux de serpents, des serpents qui ont mué. D'ailleurs, c'est l'origine de l'emblème des pharmaciens et des médecins, ce fameux serpent, parce que c'est une image de la résurrection. On pensait qu'il y avait quelque chose comme de l'ordre de la résurrection des serpents quand ils se débarrassaient de leur ancienne peau et qu'ils mouraient et qu'ils revivaient. D'ailleurs, quand Asclépios va mourir, Zeus le transforme dans une étoile qui est l'étoile du serpentaire. C'est tout à fait, tout ça est symbolique. Le mythe de Frankenstein, pour y revenir, c'est un mythe de la dépossession. C'est un mythe extrêmement profond. L'idée est la suivante, c'est pour ça que ça apparaît dans la théologie chrétienne. L'idée est la suivante, c'est que quand l'être humain s'arroge le monopole de Dieu, c'est-à-dire le monopole de la vie, Dieu seul est capable de créer la vie, lorsque l'être humain empiète, si je puis dire, sur ce monopole divin, sur la prérogative divine, et qu'il prétend donner lui-même la vie, eh bien, il est puni parce que, et c'est un mythe de la dépossession, la créature qu'il fabrique échappe à son créateur. C'est ça le mythe de Frankenstein, c'est un mythe de la dépossession. Le docteur Frankenstein fabrique le monstre à partir de cadavres qu'il a volés dans une morgue, il donne à ces cadavres, enfin à ce monstre fabriqué à partir de morceaux de cadavres, il lui donne la vie en dérivant l'électricité du ciel et la créature qui naît. Donc on a, en effet, c'est-à-dire
c'est juste le moment où on découvre
le parallélisme entre l'électricité des orages et puis l'électricité qu'on peut fabriquer, notamment celle qui vient des fameuses anguilles électriques. C'est comme ça que ça s'est découvert au départ. Et donc on a cette idée qu'avec cette électricité, on va pouvoir donner la vie à cette créature, à ce monstre fabriqué de cadavres humains, et la créature échappe à son créateur et elle menace de dévaster la Terre. Entre parenthèses, beaucoup d'écologistes reproduisent cette mythologie de Frankenstein à propos des OGM aujourd'hui. C'est la même chose. Le grain de maïs fabriqué par ou cultivé en champ ouvert va échapper au cultivateur et au savant fou qui l'a fabriqué, enfin dans la mythologie des écologistes, et il va le pollen transporté jusqu'à 100 km ou 150 km loin de ce champ va échapper au contrôle du savant, du chercheur, et il va être irrécupérable, il va dévaster en quelque sorte la planète à son échelle. Et donc on a là un mythe de la dépossession, et donc on stigmatise l'hubris humaine, l'arrogance humaine, la démesure humaine, en rappelant toujours ce mythe de Frankenstein ou le mythe d'Asclépios qui en est la première version dans la mythologie grecque.
Mais est-ce qu'on peut penser que Frankenstein, c'est le futur robot-machine, homme-machine? Certains philosophes, comme Jean-Michel Beignet ou bien Norbert Merganian, considèrent que c'est l'exemple d'un homme-machine, et moi je trouve pas du tout.
Non, parce que en fait le malheureux monstre de Frankenstein, il est d'abord pas du tout machine, il est vraiment tout à fait humain, le malheureux. C'est pour ça il est extrêmement touchant, parce que ce monstre est capable de sentiments, capable de conscience de soi. Il se rend compte des malheurs qu'il engendre, des dévastations qu'il produit. Donc c'est pas véritablement un homme-machine. Non, ce que vise le post-humanisme, hein, mon ami Jean-Michel Beignet d'ailleurs, je crois, le sait très bien. Ce que vise le post-humanisme, c'est vraiment de fabriquer, hein, dans l'université de Kurzweil, l'université de la singularité de Google, de fabriquer vraiment une machine qui soit consciente d'elle-même, capable d'émotion et immortelle. Voilà. Est-ce qu'on y arrivera ou pas? Encore une fois, aujourd'hui, ça paraît délirant, mais c'est pas totalement certain qu'on n'y arrive pas.
Alors là, il se trouve que Frankenstein, la créature plutôt, je dirais, s'il va devenir violent, c'est parce qu'il n'arrive pas à exprimer et à réaliser son amour, on ne lui a pas fabriqué de compagne.
Oui, c'est un petit peu comme, au fond, on retrouve dans la mythologie de King Kong, hein, dans les fameux films, il y en a plusieurs qui retracent l'histoire de King Kong, on retrouve cette même idée, au fond, de ce monstre qui a un cœur d'or, en vérité, il est fleur bleue, et simplement, il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, et en plus, il n'arrive pas à être aimé, parce qu'il est monstrueux, comme King Kong ne peut pas être aimé par Jessica Lange, la ravissante actrice qui incarne le rôle de la femme qui se retrouve dans la main de King Kong. C'est la même chose dans le mythe de Frankenstein. Et donc, ce sont des mythes. On retrouve un petit peu, d'ailleurs, dans des personnages, par exemple, dans le sauvetage de la Durande, dans Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, on retrouve ces personnages qui sont monstrueux, qui ne peuvent pas être aimés et qui deviennent ou malheureux ou violents ou les deux parce qu'ils ne peuvent pas être aimés. Mais c'est une mythologie très intéressante parce que il y a à la fois cette dimension humaine, cette dimension affective du monstre, mais en même temps, il y a ce mythe de la dépossession qu'on retrouve dans les critiques, dans la bioéthique contemporaine ou dans l'écologie contemporaine, dans les critiques du transhumanisme, où on dit voilà, cet homme prométhéen, ce savant transhumaniste va fabriquer des monstres, les manipulations génétiques vont nous entraîner trop loin. Voilà, et c'est évidemment à partir de là que les questions de régulation se posent de manière aiguë dans le domaine de la bioéthique comme dans le domaine de l'écologie ou de l'économie collaborative.
Alors, Luc Ferry, nous abordons avec votre livre sur le transhumanisme, la révolution transhumaniste, ce projet donc qui est d'une longévité extrême, on va dire, pas dire plus, on va dire la mort de la mort, mais voilà.
Non, on mourra toujours, ça. Oui, mais on peut vivre très longtemps.
On peut vivre très longtemps. Oui. Mais alors justement, dans quelles conditions? Parce que c'est un peu le lien entre longévité et vieillesse. Et là aussi, on a bien sûr des mythes. Hein. On peut faire la Sibylle de Côme qui demande à Apollon, dirais, de vivre longtemps. Mais sauf que Apollon lui dit pas quand est-ce que ça va se terminer.
Et ça se passe mal pour elle.
Ça se passe mal parce qu'elle sera bougrie éternellement, on va dire. Ou bien la mésaventure de Titon, hein, celui qui est l'amant malheureux de la déesse Eos, qui demande l'immortalité, mais il a oublié d'exiger la jeunesse. Donc on est toujours dans cette situation. Ok, on peut vivre longtemps, mais
dans quel état?
Alors, il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans la nature et sur le plan scientifique. C'est que, d'une part, il y a des animaux qui vivent quand même longtemps, des carpecoï qui vivent 200 ans, des tortues, en particulier à Madagascar, des mollusques qui peuvent même vivre 400 ans. Il y a des méduses ou bien d'autres petits animaux qui résistent dans des conditions extrêmes de froid ou de chaleur. Et bien sûr, du côté végétal, on a des durées de vie de milliers d'années, de dizaines de milliers d'années. En Tasmanie, il y a des arbres qui sont là depuis 45 000 ans. Alors, contradiction, chaque espèce est quand même à peu près conçue, vous l'avez dit d'ailleurs, l'homme n'a pas dépassé 120 ans depuis que l'homme existe, hein, malgré bien sûr les théories de la Bible et de Mathusalem. Donc, y a-t-il une signature génétique? On a cherché à comprendre, on a examiné 800 centenaires, on a trouvé 62 gènes, peut-être un peu responsables d'eux, mais pas sûr. Et à l'inverse, on a quelques cas absolument fascinants. Je ne sais pas si, Luc Ferry, vous connaissez ça. C'est une maladie qui s'appelle le progéria.
Oui, bien sûr. Oui.
Hein, et qui fait un vieillissement accéléré, c'est-à-dire des enfants qui, à l'âge de 20 ans, ont terminé leur parcours. Donc, il y a quand même quelque chose à comprendre. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus, sur ces fameuses télomérases, c'est-à-dire la fin des chromosomes, l'extrémité des chromosomes qui pourrait être soit activée, soit inactivée, et donc favoriser ou pas la longévité. Et puis, il y a quelque chose, d'ailleurs, que vous avez aussi évoqué, Luc Ferry, c'est cette régénérescence. Parce que, par exemple, il y a des animaux, comme la salamandre, hein, qui, on lui enlève une patte, elle va recréer une patte. Un œil, une queue, les méduses, c'est pareil. Donc, on est quand même dans quelque chose qui invite à comprendre qu'est-ce qui fait... C'est, d'ailleurs, même aujourd'hui, une femme, elle a des ovaires qui s'arrêtent de fonctionner à 50 ans, et tout le reste de ses organes, si on se place à l'échelle cellulaire, va fonctionner 30 ans de plus.
Et oui.
Et donc, on va être confronté à cette notion de est-ce qu'on peut comprendre l'allongement de la durée de vie et dans quelles conditions.
En fait, il y a deux problèmes. Il y a un problème. Est-ce que c'est possible vraiment de lutter contre la vieillesse et d'augmenter réellement la longévité? Enfin, par exemple, de réussir un jour à fabriquer des humains qui vivraient 200 ans. Est-ce que c'est possible vraiment, scientifiquement? Ou au contraire, est-ce que c'est une illusion totale? Et puis, il y a une deuxième question. À quoi ça servirait? Est-ce qu'on souhaiterait ça? Est-ce qu'on a envie de vivre 200 ans, par exemple? Et moi, très souvent, quand je pose la question, les gens se disent « Oh non, quelle horreur !» etc. Mais j'ai des doutes sur leur sincérité ou sur leur lucidité, parce que quand le médecin vous annonce le mauvais cancer et qu'il vous dit « Voilà, en gros, vous en avez pour 6 mois », généralement, les gens sont accablés et ils n'ont qu'une envie, c'est de continuer
mais
à vivre.
Mais ils sont en pleine force de l'âge.
Oui,
quand
mais le
arrive,
projet
quand
transhumaniste...
Quand les choses arrivent un peu plus tard, on l'accepte.
Oui,
mieux.
Sauf que le projet transhumaniste, évidemment, c'est pas de faire vieillir les gens ou de les faire vivre totalement gâteux dans un fauteuil roulant. Non, c'est de les faire vivre jeunes et en bonne santé. Il y a d'ailleurs un exemple que vous n'avez pas évoqué, mais qui est très intéressant aussi. Enfin, si vous l'avez évoqué en parlant des télomères, mais c'est le cas des cellules cancéreuses qui sont immortelles. Paradoxalement, elles nous tuent parce qu'elles sont immortelles. Bon. Et donc, en travaillant sur le cancer, moi, j'ai eu la chance de suivre des cours formidables de mon vieil ami André Hadoud, qui nous a malheureusement quittés aujourd'hui, mais qui était un prof exceptionnel sur la biologie du cancer. J'ai suivi ça pendant 3 années avec lui. C'était absolument passionnant. Et on voyait en effet comment il existe des mini-organismes, si je puis dire, les cellules cancéreuses qui, elles, sont immortelles.
C'est le cas de Henrietta Lacks, hein, qui a eu un cancer en 1951, sur lequel on a, c'est la personne qui a, dont les cellules, elles sont immortelles puisqu'elles se divisent toujours.
Elles se divisent toujours.
Elles se divisent toujours 70 ans plus tard.
C'est fascinant quand même. Et donc,
d'ailleurs, ça pose la question, qu'est-ce qui est éternel chez nous? Est-ce que c'est, parce que, à un moment donné, d'ailleurs, il y a aussi un très beau bouquin qui s'appelle L'immortalité avec Tissot, où on parle, mais finalement, nous avons des poussières d'étoiles.
Bien sûr, du Big Bang,
au niveau moléculaire, finalement, il y a une certaine forme d'éternité.
D'éternité en nous-mêmes, bien sûr. Oui. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Voilà les deux questions qu'on peut se poser. Je reviens un instant aux souris transgéniques de l'université de Rochester. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent à aller voir sur le net par eux-mêmes quels sont les résultats de ces expériences sur les souris. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elles vivent 30% plus vieilles. Donc là, c'est pas simplement l'espérance de vie qui est augmentée, mais c'est vraiment leur vie qui est augmentée. Donc c'est un peu comme si on vivait tous 130 ou 140 ans. Elles vivent donc 30% plus vieilles. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vivent en bien meilleure santé. Elles évitent pratiquement toutes les maladies liées à la sénescence. Donc elles ont beaucoup moins de problèmes cardiovasculaires, elles ont moins de cancers et surtout une mobilité beaucoup plus grande. Donc oui, le projet est probablement faisable. Le plus difficile, ce sera probablement de faire vieillir convenablement le cerveau. Hein. Ce que me disait l'autre jour mon ami Axel Kahn, c'est que lui n'y croit pas. Il me dit non, on est programmé pour mourir autour de 100 ans, on n'arrivera pas à aller plus loin. J'ai beaucoup d'autres amis ou collègues biologistes qui me disent non, on y arrivera, c'est qu'une question de temps. Donc pour l'instant, je suis philosophe, je laisse le débat ouvert. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a réussi à le faire sur des petits mammifères. Là, c'est pas des champignons ou des drosophiles, des mouches. Les souris, c'est quand même assez proche de nous, même si on est beaucoup plus compliqué que les souris. Donc, on a réussi à le faire. Maintenant, est-ce que c'est souhaitable? L'idée transhumaniste, c'est que comment dire, vous connaissez l'adage « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », ce serait de fabriquer une humanité qui serait jeune et vieille à la fois. Et donc, l'idée, c'est que cette humanité-là, elle serait plus sage. Mon vieux père, qui s'était évadé 4 fois des camps en Asie, et qui a vécu des atrocités inimaginables dans ces camps, me disait toujours que si la guerre était réservée aux plus de 65 ans, il n'y aurait pas beaucoup de guerre. Et je pense qu'il avait raison. Je pense qu'on est quand même beaucoup moins agressif, beaucoup moins violent, pas simplement pour des raisons vitales et physiques, si je puis dire, mais aussi pour des raisons morales et intellectuelles. Quand on a passé les 60 ans, on regarde les choses avec peut-être un peu plus de sérénité, plus de calme. Et donc oui, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée de fabriquer une humanité qui serait jeune et vieille à la fois. Du reste, nous, mon cher René, qui approchons de l'âge canonique et limite, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Est-ce que vous n'auriez pas envie de vivre 20 ou 30 ans de plus? Voilà, je pense qu'on est beaucoup moins bête.
Oui, toute la question, c'est dans quelles conditions.
Mais évidemment, ça s'entend en bonne santé, notamment intellectuelle.
Oui, là, c'est difficile de dire.
Et,
non.
Et donc, franchement, moi, j'ai pas envie de mourir pour dire les choses aussi bêtement que possible. Et donc, et en plus, j'ai l'impression que, vous savez, Kant a écrit La critique de la raison pure, qui est quand même peut-être la plus grande œuvre philosophique de toute l'histoire de la pensée, quand il avait déjà un âge assez canonique. Bon, et donc, il avait largement passé les 50 ans, ce qui, au XVIIIe siècle, était vraiment, comme aujourd'hui, largement 80 ans. Bon, et donc, je me dis que on n'est peut-être pas plus intelligent à 70 ans ou 80 ans qu'à 20, mais on est beaucoup moins con. Et donc, ceci remplace cela. Je crois qu'on fait quand même des progrès, peut-être pas en termes d'intelligence pure, mais en termes de compréhension du monde, de compréhension des autres, de compréhension de soi. Donc, je trouve que le projet n'est pas idiot. Voilà, si c'était possible, ça pourrait être souhaitable.
Mais alors, la question, elle est bon, physique. Il y a des choses d'ailleurs qui se passent, on l'a évoqué dans l'émission précédente. Mais question cerveau.
Oui, question c'est cerveau, le vrai problème. Ouais.
C'est le vrai problème.
Ouais, c'est le plus difficile.
Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que c'est que cette situation où il y a tellement d'argent qui ont été mis, par exemple, dans les différents projets. Il y a le projet à Lausanne du Blue Brain Project en 2005, repris par le Human Brain Project en 2013, avec beaucoup d'argent de l'Union européenne. 35 chercheurs au moins, réussi à comprendre le fonctionnement aussi d'une partie du cerveau du rat, avec 10 000 neurones virtuels, 30 millions de synapses. Est-ce que c'est utile? C'est très critiqué, ce projet.
Oui.
Est-ce que quand même on va réussir à avoir autre chose que du déterminisme simple, je dirais?
Oui.
Mais justement, ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce que vous évoquiez dans votre livre, Luc Ferry, La révolution transhumaniste, à savoir véritablement une autonomie de l'intelligence.
Alors, je ne sais pas du tout si on y arrivera. Moi, j'ai discuté avec des gens de l'Université de la Singularité qui me disent on y arrivera. Ils ont des très bons arguments. Encore une fois, ils sont matérialistes, donc ils pensent qu'on est déjà des machines et qu'il suffit simplement de parvenir un jour à créer des machines, des ordinateurs qui imiteront parfaitement les synapses, les connexions neuronales, etc. pour que on obtienne en effet cette intelligence artificielle forte. Du reste, vous avez peut-être vu comme moi que l'année dernière, des gens qui ne sont pas non plus des débutants, Elon Musk, le patron de Tesla, Bill Gates, tout le monde sait qui c'est, le patron de Microsoft, mais aussi Stephen Hawking, qui est quand même un immense scientifique, ont signé ensemble une pétition contre les dangers de l'intelligence artificielle forte, ce qui veut dire que, comment dire négativement ou en creux, ça veut dire qu'ils y croient, sinon. Et Elon Musk a mis 10 millions de dollars dans une fondation destinée à prévenir et penser par avance les dangers de cette intelligence artificielle forte. Donc ça veut dire qu'ils y croient.
Alors c'est quoi les dangers?
Les dangers, alors si on veut faire un peu de science-fiction, mais c'est pas simplement de la science-fiction. Si on fabrique un ordinateur qui a l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire qui est capable de conscience de soi et qui est capable d'avoir des émotions, bon, ce qui est le projet en effet post-humaniste, le projet de l'Université de la Singularité, alors on aura fabriqué une machine darwinienne. Et quelle est, c'est pas à vous que je l'apprendrai, René Friedman, vous savez ça aussi bien que moi, sinon mieux. Une machine darwinienne, c'est quoi? Un être darwinien, sa première préoccupation, c'est d'éliminer tous ceux qui peuvent l'éliminer. Imaginez que cette machine, elle aura accès à toutes les informations qui sont, par exemple, dans les réseaux de Google. Et quand vous pensez que déjà l'intelligence artificielle faible, elle est capable de battre le champion du monde de jeu de Go, que déjà dans les années 95, on battait le champion du monde d'échecs. Et donc, quand vous imaginez que cette machine, elle aura accès à toutes les informations, y compris militaires, du monde entier, voilà, je pense que si Bill Gates, Stephen Hawking et Elon Musk s'en inquiètent, c'est qu'ils ont des raisons de s'en inquiéter. D'ailleurs, Stephen Hawking a eu cette phrase incroyable, il a déclaré « Si nous allons vers l'intelligence artificielle forte, ce sera un grand pas pour l'humanité, mais ce sera le dernier ». Et donc, ça veut bien dire que ces gens-là, qui sont encore une fois, sont pas des. Attends, c'est pas mon ami Finkielkraut ou mon camarade Régis Debray, c'est pas des anti-modernes, c'est des fanatiques de la technologie, de la science et de la modernité. Et donc, si ces gens-là sont inquiets, c'est qu'ils pensent encore une fois qu'il n'est pas impossible qu'on parvienne à cette intelligence artificielle forte. Donc, oui, ça mérite qu'on s'y intéresse dès maintenant. C'est un vrai sujet.
Les discussions du soir. René Friedman avec Luc Ferry.
Cette intelligence artificielle, pour les plus extrêmes des transhumanistes, pourrait être un lieu où on pourrait télécharger notre propre mémoire et notre propre personnalité.
Alors oui, là, mais pas nous, petits humains biologiques. On pourrait le faire si nous étions déjà des machines. C'est-à-dire qu'on pourra télécharger la mémoire d'un ordinateur intelligent. Mais la vôtre ou la mienne, je crains que non. Pourquoi on investit dedans? Peut-être faut le dire pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien que c'est pas de la science-fiction et qu'on est déjà dans le réel. Pourquoi, par exemple, vous évoquiez le fait que l'Union européenne investit massivement dans des projets touchant l'intelligence artificielle forte? C'est parce que l'économie collaborative fonctionne avec cette intelligence artificielle forte. Tout bêtement, quand vous prenez votre petit smartphone dans la main et que vous appelez un Uber, un taxi, ou vous appelez un Airbnb, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne à l'intelligence artificielle. Il faut pouvoir traiter des milliers de milliards de données, même votre petit mini coyote dans sa voiture. Il fonctionne à l'intelligence artificielle parce qu'il faut pouvoir traiter ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire des milliers de milliards de données en quelques secondes pour que ces applications fonctionnent. Donc, l'économie collaborative Uber, Airbnb, Blablacar et les autres ne serait pas possible sans le big data, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle, c'est au fond les piliers qui sont communs à la fois au transhumanisme et à l'uberisation du monde, ou à la troisième révolution industrielle, c'est pareil. Donc vous voyez bien que si Google ou les GAFA, Google, Apple, Amazon, Facebook, ou le patron de Tesla, ou Microsoft investissent dans ces nouvelles technologies, c'est aussi parce qu'il y a des retombées économiques qui sont absolument considérables. L'économie collaborative va bouleverser le monde, elle est en train de bouleverser le monde à une vitesse accélérée, à une vitesse intersidérale. Et donc là aussi, on a un problème de régulation qui se pose à l'horizon. Vous voyez bien qu'un peu partout dans le monde, les grandes villes, Berlin, New York, Barcelone, Paris maintenant, essayent de limiter les dégâts que engendre Airbnb éventuellement sur la corporation des hôtelleries traditionnelles. Bon, moi j'aime bien Airbnb, je défends Airbnb, mais je comprends très bien que les hôteliers disent voilà, cette nouvelle plateforme technologique nous mange la laine sur le dos. Airbnb n'a pas d'énormes handicaps, incendies, etc. Voilà, hein. Donc il faut bien voir que c'est pour qu'on comprenne que les retombées de l'intelligence artificielle, c'est pas simplement en science-fiction et dans le transhumanisme, c'est aussi dans la réalité économique dès aujourd'hui.
Mais restons sur les projets un peu à long terme du post-humain. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette volonté de valoriser tellement la mécanique intelligente, c'est une façon de se débarrasser du corps, comme s'il y avait une peur de la chair, une peur de la femme, on le voit bien dans un film comme Her, H-E-R. Et donc, puis aussi avec les idées d'une matrice artificielle, Henri Atlan, par exemple. Oui. Et quelque part, on ne parle pas de désir ni de sexualité, qui fait quand même, jusqu'à preuve du contraire, le sel de la vie.
Oui, c'est sûr qu'on ne fera pas l'amour avec des robots de la même manière qu'avec des êtres humains. Et ça fait partie d'ailleurs des... Encore que, voilà, un transhumaniste vous dirait, oui, vous pensez ça parce que vous êtes des vieux cons, que vous êtes déjà des vieux mammifères dépassés. Mais vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants, eux, peut-être qu'ils trouveront que les robots, c'est encore mieux que les humains. Je ne sais pas. En tout cas, le débat est ouvert. Mais vous avez raison. Et je crois que c'est fondamental de rappeler qu'il y a un projet transhumaniste biologiste, on reste dans dans le biologique, on garde notre corps humain, juste on améliore l'organisme humain, et puis il y a un projet post-humaniste qui est en effet de fabriquer une post-humanité qui serait purement matérielle et dans laquelle, et vous avez tout à fait raison, c'est un vrai problème, le biologique aurait à la limite disparu. Il serait imité, si vous voulez, parfaitement par une mécanique qui serait quand même une mécanique non biologique, qui serait une mécanique en ce sens inusable. La vraie immortalité serait là, si jamais on y parvient. Moi, très franchement, je n'y crois pas, mais encore une fois, c'est très difficile de réfuter les arguments matérialistes, mais intelligents des post-humanistes.
Le Ferry, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, personne ne peut parier sur l'avenir. On peut juste ouvrir sur d'abord des étapes qui sont déjà là,
d'autres
qui se dessinent. Oui. Mais c'est plutôt sur le plan idéologique, sur le plan philosophique, qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette idéologie transhumaniste, c'est une super valorisation de l'individu? C'est un renfermement de l'individualisme. Seul compte son propre développement et non pas, on change le monde ou on se perfectionne, quoi, en même temps.
Ce sont à l'origine, la plupart des transhumanistes sont à l'origine des libertariens. C'est en fait, c'est une trajectoire que vous connaissez bien, qui est très classique. Ce sont des gauchistes individualistes, c'est-à-dire des gauchistes qui sont passés à l'ultralibéralisme, qui est une trajectoire très, très attestée, d'ailleurs, aussi bien en France qu'aux États-Unis, mais surtout aux États-Unis. Et donc, en effet, il y a une dimension ultralibérale et très individualiste dans le mouvement transhumaniste. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est financé par des firmes comme Google, qui sont pas spécialement collectivistes et de gauche. Donc oui, il y a un aspect. Et en même temps, il y a aussi un côté social-démocrate, parce que c'est pas simplement ultralibéral, il faut pas être simpliste sur le projet politique transhumaniste. Oui, il y a une dimension hyper-individualiste, vous avez tout à fait raison, mais il y a aussi une dimension social-démocrate, on l'a évoqué dans la dernière émission, c'est le fameux « from chance to choice », c'est-à-dire l'idée de passer de la correction des inégalités sociales à la correction des inégalités naturelles, de corriger l'injustice génétique, si je puis dire. Et donc ça, c'est plutôt un projet égalitariste et social-démocrate. D'ailleurs, la question des inégalités économiques se posera, mais pas autant qu'on le croit, parce que il faut rappeler que la loi de Moore, elle s'applique aussi
à... C'est d'ailleurs cette multiplication dans le temps des informations.
Oui, en fait, la loi de Moore, ce qu'on appelle en mathématiques les exponentielles, c'est-à-dire le fait que, pour prendre un exemple plutôt simple, la puissance des processeurs des ordinateurs a été doublée tous les 18 mois depuis l'invention des PC. Alors aujourd'hui, ça se ralentit, mais globalement, c'est ça la loi de Moore. Et ça vaut aussi pour l'économie, c'est-à-dire que, pour donner un exemple que vous connaissez très bien, mais que je rappelle pour nos auditeurs, le premier séquençage du génome humain, il est achevé en 2003, il a coûté 3 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça coûte 2000 euros. Et à la fin de la décennie, ça coûtera moins cher qu'une prise de sang. Donc, et ça permettra de repérer quantité de maladies génétiques potentielles. Donc, ça posera là aussi des problèmes éthiques énormes. Et donc, les inégalités économiques, elles ne dureront pas forcément aussi longtemps qu'on le croit, parce que c'est une objection qu'on fait souvent aux transhumanistes. On dira, ah oui, mais il y aura plusieurs humanités. Il y aura les riches qui pourront se payer l'augmentation, et puis les pauvres qui demeureront dans l'humanité traditionnelle. Oui, peut-être ça existera, mais pas autant qu'on le croit. Et le projet transhumaniste, oui, il est à la fois très individualiste, mais aussi soucieux d'égalité, donc aussi social-démocrate.
Est-ce que la mort est nécessaire, on va dire, au sens où le prône Amezen, par exemple, hein, ou sur l'apoptose, la disparition d'une cellule.
Oui.
Enfin,
oui.
La mort permet la régénérescence d'autres
bien
éléments,
sûr. Hein, bien
de,
sûr.
D'autres individus
oui.
Qui viennent remplacer.
Oui. Elle est très utile, la mort, oui. Bien sûr. Biologiquement, oui.
Biologiquement. Oui. La destruction créatrice, quoi, on va dire.
Oui, on peut dire ça comme ça en termes schumpeteriens. D'un point de vue darwinien, d'un point de vue biologique, la mort est, au fond, on a accompli notre destin sur cette terre du point de vue biologique quand on a transmis ses gènes et qu'on a élevé ses enfants. En gros, il faut à la fois procréer, puis maintenir ce qu'on a procréé suffisamment longtemps pour que ça puisse à son tour procréer. Mais en gros, passé 50 ans, on pourrait mourir. On n'aurait pas, d'ailleurs, c'est là qu'on commence vraiment à vieillir. On pourrait mourir du point de vue biologique. On n'a plus rien à faire sur cette terre. Point de vue philosophique et métaphysique et moral, non, on peut, comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on a plein de choses à écrire, à penser, à faire, à donner, à apprendre à soi et aux autres passé 50 ans. Donc la biologie et la philosophie, c'est pas la même chose sur cette question-là.
Des gens comme Lionel Nakache parlent de neuro-religion. Je ne sais pas si vous avez pu lire
oui,
ça.
Oui.
avec cette stimulation qui a été faite par un chirurgien canadien au niveau du cerveau et qui exacerbe les expériences subjectives et quelque part l'expérience mythique.
Oui, alors en même temps, les transhumanistes sont tous des matérialistes athées, hein, c'est pas du tout des religieux. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension, si on veut la paix religieuse, dans le fait de vouloir viser l'immortalité et la lutte contre la mort et le vieillissement. Oui, ça c'est vrai que de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est une religion de salut terrestre.
Est-ce que dans votre volonté de réguler toutes ces tendances que vous avez énoncées, qui on retrouve très bien dans votre livre, Luc Ferry, est-ce que vous pensez que il va falloir définir une ligne rouge qui n'est pas due à des impossibilités techniques, mais qui est due à des décisions éthiques, on va dire, morales, sur quelle base, sur quelle limite? Voyez-vous.
Ce sera très très difficile. Je pense que le principe général est le suivant, c'est que tout ce qui humanise l'homme est bon, tout ce qui le déshumanise est mauvais. Maintenant, comment le définir, c'est toute la question. Ce sera très difficile de réguler. Pourquoi ? Je vous dis pourquoi ce serait très difficile, et c'est vraiment le fil rouge de mon livre. Pourquoi ce sera très difficile de réguler? Parce que, un, ces technologies sont très très compliquées. Hein, que les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, big data, auxquelles il faudrait ajouter les imprimantes 3D, l'hybridation aux machines, tout ça, ça peut épuiser une vie de chercheur. Donc c'est très difficile pour les politiques, ou pour les philosophes, ou pour les penseurs de réguler de l'extérieur sans comprendre ce qui se passe. Bon. Donc c'est très technique. Deux, ça va très très vite. Et ça, vous le savez mieux que n'importe qui, ces technologies, elles progressent de manière exponentielle, extraordinairement rapide. Et trois, c'est mondial, c'est géopolitique, si vous voulez. Donc, pour les législations nationales n'auront plus de pertinence sur ces questions-là. C'est d'ailleurs déjà le cas dans votre domaine, dans le domaine de la bioéthique. Une législation, à quoi bon interdire le diagnostic préimplantatoire à Paris si c'est autorisé à Bruxelles ou à Londres?
Longtemps que vous le disiez.
C'est idiot, ça sert juste à emmerder les femmes françaises, mais ça n'apporte rien en termes de morale réelle. Bon, donc ce sera très difficile, très technique, très rapide et mondialisé. Mais il faudra le faire et je pense qu'en effet, nous sommes sans cesse davantage renvoyés, non pas à la nature sacralisée qui serait une norme, la nature n'a jamais été une norme, mais nous sommes renvoyés à notre liberté, à notre responsabilité. Et donc ça posera des problèmes de régulation, d'ailleurs aussi bien dans le domaine du transhumanisme que dans le domaine de l'économie collaborative, qui seront extrêmement difficiles et nos politiques devraient s'y intéresser dès maintenant. Moi, ce qui me consterne, c'est de voir que nos politiques, et hélas beaucoup d'intellectuels, souvent les meilleurs d'ailleurs, ceux pour lesquels j'ai le plus d'estime et d'amitié, sont encore dans les débats autour de Daesh, autour de l'islam, autour... Bon, je comprends qu'on soit tétanisé par ces questions, mais je vous le dis et je vous le redis, c'est pas Daesh qui fera le 21e siècle. Ce qui fera le 21e siècle, c'est les GAFA, c'est la troisième révolution industrielle. C'est elle qui va bouleverser le monde, c'est pas Daesh. Daesh va nous embêter considérablement, fera des morts, va être terrible. Mais c'est pas eux qui feront le monde. Ce sont les GAFA qui feront le monde. Et donc, si on ne s'y intéresse pas, si ni les intellectuels ni les politiques ne s'y intéressent, on va être complètement, comme dit Laurent Alexandre, on ouvre un Reich de 1000 ans aux États-Unis. Et c'est pas une bonne chose.
Oui, justement, si on fait référence au Reich, est-ce que vous pensez pas que la ligne rouge qui devrait être montée en force, c'est, on va rester sur le simple, ne fais pas à autrui ce que ne voudrais pas qu'on te fasse, ou plus simplement, est-ce que dans toute nouveauté, en tous les cas ou toute application, ce qu'il ne faut pas regarder, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être utilisé, qui va être brimé?
Oui.
Qui va être, je dirais, au profit d'un autre.
C'est-à-dire
que dans cette régulation et dans cette ligne rouge, c'est vrai que je m'attendais un peu à ce que vous insistiez là-dessus, mais peut-être ce sera le prochain bouquin. c'est justement la ligne, c'est est-ce que j'exploite, j'aliène une autre personne pour un projet aussi fabuleux soit-il.
Oui, c'est exactement le critère. Kant disait déjà, le plus grand philosophe du XVIIIe siècle, il disait déjà que le principe moral fondamental, c'était de ne jamais traiter l'être humain comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. Au fond, ça revient exactement à ce que vous dites, et je suis évidemment d'accord avec ça, je signe des deux mains. Mais j'ajouterai une chose, c'est pas simplement ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie, mais un jour que je donnais une conférence sur l'histoire de l'humanitaire, notamment sur Henri Dunant et le souvenir de de Solferino devant Robert Badinter, qui était dans le public, ce qui d'ailleurs était très, très honorifique pour moi, vu que c'est quelqu'un pour qui j'ai très grande estime et admiration. Robert Badinter était venu me voir à la fin de ma conférence et il m'avait dit, au fond, l'humanitaire, ce que vous voulez dire, c'est ça, c'est pas simplement ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie, mais c'est ne laisse pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie. Et ça c'est la différence, au fond, entre la première génération des droits de l'homme et la deuxième, la génération de l'humanitaire moderne. Et je dirais que oui, c'est ça, les deux principes fondamentaux de l'éthique qu'on doit mobiliser pour réguler ces problèmes de transhumanisme et d'économie collaborative, c'est un, traiter toujours l'humain comme une fin en soi et jamais comme un moyen, et deux, ne laisse pas faire, ne pas laisser faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Oui, ça, je pense que ce sont les deux principes qui doivent servir de boussole dans cette problématique de la régulation, qui sera de toute façon très difficile à mettre en place pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure.
Alors, j'évoque les grossesses pour autrui.
Oui.
Je sais que nous retrouvons sur la même position de ne pas accepter, parce que justement, là, c'est pas un développement technique, hein, soyons clairs.
Non, non.
C'est une pratique.
Oui.
Mais justement, c'est un des exemples de l'utilisation, enfin, de l'esclavage à l'utilisation d'une partie du corps, qui doit être abordée, en tous les cas, dans le fond.
Voilà. Et je pense que ce problème de la GPA, de la gestation pour autrui, de ce qu'on appelait autrefois les mères porteuses, peut-être de manière plus compréhensible pour le grand public, ça suscite des conflits qui sont inextricables. Et c'est pour ça que je suis contre. Je suis à fond pour la PMA, les procréations médicalement assistées. Je suis aussi, comme vous, à fond pour le diagnostic préimplantatoire, parce que je pense que il s'agit pas du tout de fabriquer un humain parfait, mais d'éviter des malheurs absolus. Bon. Et donc, je suis pour toutes ces nouvelles technologies, mais pas pour la GPA. Parce que je pense que ça suscite des conflits qui sont insolubles. Quand une femme qui joue le rôle de mère porteuse s'aperçoit au bout de 6 mois que son ventre n'est pas une valise et que son bébé c'est bien son bébé, que c'est un être humain qui fait partie d'elle et qu'elle ne veut plus, par exemple, donner cet enfant à quelqu'un d'autre, même si elle a signé un contrat, comme c'est le cas aux États-Unis, quel est le juge qui peut dire, mais si, il faut lui arracher son enfant parce que on a signé un contrat, bon, et en même temps les parents ont signé ce contrat, donc les parents peuvent dire mais attendez, on nous a promis quelque chose, on a préparé la chambre, on attend depuis 6 mois, comment pouvez-vous nous retirer cet espoir que nous avons mis dans cette femme, bon, et donc on suscite des déchirures qui ne sont pas traitables ni moralement ni juridiquement. Donc mieux vaut éviter, quand un problème n'est pas traitable juridiquement et moralement, mieux vaut éviter de le susciter. Voilà pourquoi je suis pas pour, et puis c'est parce que aussi je pense que, encore une fois, le corps des femmes n'est pas une valise. Voilà. Bon, maintenant, on peut discuter. Elisabeth Badinter a des très bons arguments pour la GPA, par exemple, que je ne partage pas, mais dont je reconnais l'intérêt ou la puissance parfois. Mais je pense que on entre là dans quelque chose qu'on doit réguler au nom des principes que nous avons là tous les deux évoqués tout à l'heure.
C'est-à-dire, oui, tout dépend où est-ce qu'on porte le regard. Si c'est celui qui en bénéficie ou celui qui en pâtit.
Voilà.
Ou
mais la déchirure
ou même
pas,
qui risque d'en pâtir.
Mais voyez, cette déchirure-là, on peut pas la raccommoder. Et donc, je vois pas quel juge peut dire qui a raison en cas de conflit de ce type. Et donc, quand on suscite des conflits qui sont insolubles, il vaut mieux éviter de les susciter.
Est-ce que vous pensez, Luc Ferry, qu'il y a des connaissances interdites, qu'il y a une possibilité du crime du savoir ?
Non, j'ai toujours été pour, même publier Mein Kampf, même publier les livres abominables. Je pense que il faut faire confiance, il faut être démocrate au fond, même si c'est parfois très difficile, il faut faire confiance à l'esprit critique. Et l'esprit critique, il suppose qu'on laisse aller la connaissance aussi loin que possible, parce que c'est, après à l'esprit critique de s'exercer sur la connaissance, même quand elle est parfois terrible, oui, bien sûr. Et donc j'ai toujours pensé en plus que, par rapport à la question de l'angoisse, on a tous des angoisses, on a tous des peurs. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est l'absence de lucidité. Je préfère la lucidité à une illusion douce et calmante, à un réconfort illusoire. Je préfère la lucidité dure. Voilà. Mais chacun gère ses peurs comme il l'entend. Moi, ce qui m'angoisse, c'est quand on me raconte des carabistouilles. Donc, je pense qu'il faut jamais interdire la connaissance, quelle qu'elle soit. C'est après à l'esprit critique de se déclencher, une fois que la connaissance est là, pour la réguler, pour la limiter si besoin. Mais la limiter, non pas en l'interdisant, mais en disant, voilà, ça va dans une mauvaise direction, faites attention.
Enfin, peut-être, puisque on parlait des mythes, mais là, c'est pas forcément un mythe, mais c'est quand même, je trouve, cet ouvrage remarquable qui est l'épopée de Gilgamesh.
Ah, c'est grandiose, oui.
qui commence à être de plus en plus connu, hein, je dirais, écrit sur l'argile il y a 5000 ans. Alors, l'histoire, c'est quoi?
C'est une histoire magnifique. Il faut rappeler pour ceux qui nous écoutent, parce que beaucoup de gens ignorent ce que c'est que l'épopée Gilgamesh. C'est le premier livre écrit dans l'histoire de l'humanité.
D'abord.
Donc, il est écrit d'abord en sumérien, au 18e siècle avant Jésus-Christ, et puis après en acadien. Ce sont deux langues tout à fait différentes, mais qui ont comme point commun d'être de l'écriture cunéiforme. C'est-à-dire, ce sont des lettres qui sont gravées avec des petits coins qu'on enfonce dans de la terre d'argile. On a réussi à déchiffrer très récemment, en fait, au 19e siècle, cette épopée de Gilgamesh, et qui raconte l'histoire, une histoire d'amour et de mort. C'est quand même extraordinaire que le premier roman dans l'histoire de l'humanité raconte la contradiction entre l'amour et la mort. Gilgamesh, qui est d'ailleurs un roi qui a existé, le roi de la grande ville d'Uruk, en Mésopotamie, il tombe littéralement amoureux de son alter ego, de son ami qui s'appelle Enkidu, qui a été créé par les dieux. Ils sont vraiment des alter ego, de même intelligence, même force, etc. Ils accomplissent toute une série d'exploits ensemble, ils deviennent plus qu'amis, très probablement amants. Et puis Enkidu va mourir pour des raisons que je laisse de côté. Et c'est là que Gilgamesh découvre l'atrocité du deuil de l'être aimé, la contradiction entre l'amour et la mort. Et il va partir à la recherche de l'immortalité. Et il y a un certain Utanapishti qui a échappé au déluge. Et d'ailleurs, on trouve là la matrice du déluge, de l'histoire de Noé, et d'ailleurs de Pyrrha et de Calion dans la mythologie grecque. Et donc, il va à la rencontre de cet Utanapishti qui est devenu immortel, et elle essaye de lui demander d'obtenir le secret de l'immortalité. Et Utanapishti lui dit, mais mon pauvre, je suis le seul humain à être immortel. Les dieux m'ont fait ce don, qui est d'ailleurs pas forcément un cadeau. Et tu dois accepter la mort. Et ça se termine là. L'épopée de Gilgamesh se termine là. Et il n'y a pas de consolation religieuse. Alors, horizon, il n'y a pas de promesse d'immortalité. La sagesse de Gilgamesh, c'est d'accepter la mort. Donc, voilà, à la fois quête d'immortalité et acceptation de la mort. Livre absolument magnifique. Je conseille à tous ceux qui nous écoutent, si jamais ils n'ont pas encore lu l'épopée de Gilgamesh, de l'acheter dans la très belle traduction chez Gallimard de Jean Bobéro. C'est une magnifique traduction avec le texte à côté. Alors, moi, mon acadien n'est pas ce qu'il devrait être, mais ça permet quand même de voir, de trouver. Alors, il y a des personnages extraordinaires. Il y a, par exemple, la première courtisane. Elle s'appelle la joyeuse, hein, c'est déjà la fille de joie. L'humanité, on découvre que l'humanité était au 18e siècle avant Jésus-Christ exactement ce qu'elle est aujourd'hui, avec ses rois et ses putains, avec ses héros et ses salauds. Ce texte est vraiment magnifique, et encore une fois, on y trouve la première matrice de toutes les quêtes d'immortalité qui animeront la pensée humaine jusqu'au transhumanisme contemporain.
Luc Ferry, vous avez été prof de philo, vous avez écrit 37, au moins 37 livres, mais vous avez été aussi ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Oui. Ça fait beaucoup quand même.
Oui, et des universités.
En plus, on est déjà dans haut de l'université. Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'une thématique comme celle que nous venons d'aborder devrait être déjà commencer à être diffusé dans les écoles, en tous les cas à un certain moment?
Bien sûr, je pense que les professeurs de biologie devraient s'emparer, parce qu'on a des professeurs de biologie qui sont formidables, qui sont des très grands profs. Le niveau de recrutement est très élevé, on a vraiment là une corporation de professeurs excellents. Je pense que les professeurs de philosophie aussi devraient s'en emparer, et que on devrait raconter ces questions à nos enfants plutôt que de continuer à vivre en permanence dans le 19e siècle. Le 19e siècle est formidable, j'adore Victor Hugo, j'aime beaucoup les débats sur la laïcité et la République, mais voilà, ce qui va faire le monde, encore une fois, ce sont ces questions que nous évoquons aujourd'hui, le monde qui vient, je veux dire, le monde dans lequel vivront nos enfants, et ce serait bien que les professeurs de SVT, comme on les appelle, sciences de la vie et de la terre, et les professeurs de philosophie en particulier, s'intéressent à ces questions et en parlent à leurs élèves pour qu'ils sachent dans quel monde ils vont vivre. Et bien sûr, si j'avais le pouvoir d'inscrire ça dans les programmes scolaires, je le ferais aujourd'hui sans hésiter.
Mais on ne sait jamais, il y a des individus qui renaissent sans cesse sur leur thématique. Nous verrons. En tous les cas, merci Luc Ferry d'être avec nous dans les discussions du soir. Vous avez, avec moi-même, eu une discussion aidée par Catherine Denet, Manuel Couturier, Didier Lagarde, autour de la révolution transhumaniste. Merci à tous.